Matière à penser, Patrick Boucheron.
Matière à penser, c'est une première, premier volet d'une première semaine consacrée à notre besoin d'histoire. Le thème nous occupera toute la semaine et pour l'amorcer, je suis très fier et heureux d'accueillir la grande historienne Michèle Perrot. Oui, je suis fier et ému aussi de vous accueillir, car avec vous, j'accueille une grande voix, calme, entraînante et juste. Notre besoin d'histoire, comment le dire ? Beaucoup le disent pour nous, de manière criarde, agressive, revendicatrice. Ce n'est pas votre genre, Michèle Perrot. Mais vous n'avez pas voulu rejoindre non plus la tribu endormie des historiens, impassibles, disons, retranchés dans le refuge douillet de leur savoir inutile, parce que vous savez que l'enjeu consiste aussi à se montrer entraînant, séduisant, engagé, donc du calme et de l'entrain pour être juste. Bonsoir Michèle Perrot.
Bonsoir Patrick Boucheron, merci beaucoup de m'inviter dans ce qui est presque une première émission, si je comprends bien.
Oui, c'est-à-dire je rejoins en fait l'équipe formidable. De Matière à penser formidable. Pour essayer de faire de l'histoire une matière à penser, justement.
Comme vous le faites.
Vous l'avez fait
Patrick
toute votre vie, Michèle Perrot. Faire de l'histoire une matière à rêver, à penser, à s'engager.
Oui, je pense que nous, Patrick Boucheron, nous partageons ces désirs, disons. Disons que c'est le grand désir de faire à la fois de l'histoire scientifique, on mettra des guillemets naturellement à cette proposition, et en même temps une histoire engagée, mais une histoire engagée qui demeure solide, enfin voilà.
Voilà, on, c'est ça.
On ne veut pas faire de concessions démagogiques, pas du tout, enfin véritablement garder les deux chaînons, les
alors,
deux
nous allons parler de maison, nous allons parler de votre maison d'historienne, la maison de George Sand, dans laquelle vous avez planté votre magnifique dernier livre, George Sand à Nohant, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Ça me fait drôle de vous dire bienvenue à la maison de la radio, parce que vous êtes ici chez vous, vous avez tenu ce micro pendant 30 ans, presque.
Oui, pas tout à fait, peut-être. Invité dans les lundis d'histoire par Jean-Marie Borzex, qui était à ce moment-là directeur de France Culture, et qui souhaitait qu'il y ait un peu plus de femmes. Et il avait invité Arlette Farge et moi à rejoindre l'équipe. Roger Chartier, Jacques Le Goff, notre grand maître, et nous avons, en nous partageant un peu les périodes, ce qui est peut-être un petit peu traditionnel en effet, mais nous avons cheminé ensemble pendant longtemps, avec Jean-Pierre Leroux.
Tous les lindistes, ceux que vous appeliez les lindistes entre vous.
Les lindistes, c'est-à-dire Philippe Le Villain, Roger Chartier, bien sûr, et Jean-Pierre Leroux, qui était notre lecteur, et Jacques Le Goff aimait beaucoup Jean-Pierre Leroux. Il aimait à chaque fois qu'il faisait une émission, il voulait qu'il y ait des lectures de textes, et c'est Jean-Pierre Leroux qui lisait les textes. Et je sais que Jean-Pierre est très attaché à cette histoire, en
Alors
quelque
vous,
sorte.
Vous faites partie de ces historiennes et historiens qui ont voulu donner de la voix avec l'histoire. Vous engagez, mais vous engagez d'abord dans l'écriture même de l'histoire. Et au fond, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est presque un jeu. On va partir de ce livre, de ce grand et beau livre, George Sand à Nohant. Emmanuel Laurentin, il y a une semaine, vous interrogeait dessus. Et au fond, je ne sais pas, peut-être que dans des émissions de radio, on peut aussi mettre des notes de bas de page. Je vous renvoie à la fabrique de l'histoire. Mais nous, on va partir de cette maison dans laquelle vous êtes planté au fond toute une carrière d'historien. On va partir de cette maison, on va s'y échapper, y revenir peut-être, parce que au fond, George Sand voulait faire de ce lieu le lieu de rassemblement de tous ses amis, de toutes ses passions. Elle a pas vraiment réussi, mais vous réussissez à en faire le lieu de rencontre de tous vos plaisirs d'historienne.
Oui, Patrick Boucheron, cette maison, c'est par là que j'ai découvert George Sand. Comme je le dis d'ailleurs au début du livre, elle n'était pas ma passion. Quand j'étais jeune, je la trouvais un petit peu rangée des voitures, comme on disait. Enfin,
c'est la bonne dame.
Ou la bonne dame. Et puis, il faut pas oublier qu'elle avait été réquisitionnée, si l'on peut dire, par le régime de Vichy. Vichy avait jeté son dévolu sur les écrivains agrariens, ceux qui parlaient de la campagne, parce que, comme disait le maréchal, la terre ne ment point. Et par conséquent, quelqu'un comme Agricole Perdiguier, grand ami de George Sand, le compagnon du Tour de France, une grande figure du mouvement ouvrier et de la classe ouvrière, tous ces gens-là, on les avait un petit peu réquisitionnés, Vichy les avait réquisitionnés pour cela, un petit peu.
Oui.
Et par conséquent, pour moi qui venais naturellement après cette époque, c'était comme nimbé d'un conservateur rural que je réprouvais absolument. Et un jour, il se trouve que j'ai épousé un Berrichon, et nous étions en balade, et j'ai découvert cette maison dans les années 60, vous voyez, guidée par Aurore Lautsand. Alors cette Aurore Lautsand, c'est la petite fille de George Sand, celle qu'elle appelait Titite, Lolo. Bon, et que elle a élevé, pour lesquels elle a écrit des contes d'une grand-mère qui sont tout à fait originaux et novateurs, pas les faits mais la science, hein, oui, dans les contes. Bon, et donc j'ai découvert cette maison avec cette très vieille dame qui allait mourir environ un an après, presque centenaire, 60 absolument, à peu près 59, 60 par là, et cette maison, à cette époque, n'était pas encore un musée. Elle était habitée par elle, mais par quelqu'un qui vivait aussi quand même beaucoup à Paris et plus beaucoup à la campagne. Et la maison était comme un peu abandonnée. Il y avait une espèce de parfum vieillot, mais en même temps présent. C'était une cerisée berrichonne, si oui, vous voulez. Voilà. Donc, le charme était très fort. Et je me suis dit, mais c'est pas... c'est autre chose, George Sand, c'est ça, c'est cette maison, enfin, j'y reviendrai. Puis, naturellement, j'ai un peu oublié, mais ensuite, c'est par les textes que j'y suis revenu.
Car... alors d'abord, l'histoire de ma vie, mais en tant qu'historienne du 19e siècle, finalement.
Voilà, tout à fait.
À ce moment-là, ça vous intéresse pour l'aspect, on va dire, documentaire, mais ça vous passionne pas?
De ma vie, oui. Patrick Boucheron, quand j'ai découvert Histoire de ma vie, qui est une des plus grandes autobiographies féminines du 19e siècle, il n'y en a eu pas tellement, finalement, c'est un livre très ambitieux qui veut raconter sa vie en racontant la vie de trois générations, car elle disait on ne peut se comprendre que si on comprend les générations qui vous ont précédé, et naturellement celle dans laquelle on est. Ce qui, pour un historien, est passionnant.
Oui.
Hein, l'idée du temps. D'autant plus qu'elle proposait ce modèle aux paysans et aux artisans. Elle leur disait, vous qui commencez à savoir écrire, écrivez votre généalogie, faites comme les aristocrates, faites comme les rois. Hein. Vous allez vous donner votre histoire de famille et ça sera votre blason à vous.
Hein. Alors, faites comme les rois. Justement, on va partir de là, Michel Perrault, parce que George Sand vous accompagne depuis longtemps, accompagne votre travail d'historienne. À ma connaissance, la première fois où elle apparaît dans un de vos livres de manière un peu ample, c'est pour y mourir. C'est dans l'histoire de la chambre.
En effet, dans l'histoire.
Et elle meurt comme une reine.
Elle meurt comme une reine. Dans l'histoire de chambre, je cherchais évidemment la chambre mortuaire, celle où l'on meurt, qui est tellement importante. Et il se trouve que la mort de George Sand, à Nohant, dans sa chambre, est quelque chose qui est étonnamment documenté. Documenté parce que il y a eu une espèce d'arrivée des amis, et notamment d'un certain docteur Favre, qui est un docteur parisien, qui l'avait soigné à la fin de sa vie, et qui l'a considéré comme, oui, un grand écrivain, tout à fait, hein, et plus que ça, un grand esprit. Et il s'est installé dans la chambre de la mourante,
qui elle-même avait installé un lit,
voilà,
un lit en fer,
au milieu de la chambre, oui,
pour faire de sa mort, un spectacle, on pourrait dire ça comme ça?
Elle, non, je ne pense pas. Je pense que c'est pour des raisons médicales qu'on lui avait donné ce lit en fer. Et surtout, on voulait mettre le lit en fer devant la fenêtre, hein, de façon à ce qu'elle voie le jardin, ce jardin qui avait tellement compté pour elle, alors que dans le lit habituel où elle était, on le voyait beaucoup moins.
Ce qui lui inspire peut-être sa dernière parole, laisser verdure.
Laisser verdure, ce sont ses derniers mots rapportés par beaucoup de témoins. On s'est beaucoup interrogé pour savoir ce que ça voulait dire. Il y a deux sens possibles. Elle avait un demi-frère, le fils naturel de son père, mais qu'elle considérait absolument comme son frère, qui avait été nommé par l'assistance publique Pierre Laverdure. Alors on s'est demandé si ça c'était pas une allusion à ce Laverdure qu'elle avait beaucoup aimé comme
Donc
frère.
Nous sommes le 8 juin 1876. George Sand meurt, elle a à son chevet jusqu'à 6 médecins, et effectivement l'un d'entre eux va faire le récit de cette mort comme d'une reine. Je disais tout à l'heure, elle va faire de sa mort un spectacle, mais parce que vous voyez, Michel Perrault, moi je suis médiéviste et je pensais à Guillaume le Maréchal, je pensais au début de ce grand livre de Georges Duby, et où parce que au fond cette maison de Nantes, c'est une domus au sens médiéval, c'est-à-dire qu'il y a les amis, il y a la famille, et il y a aussi tout ce qu'elle a voulu faire de ce lieu, c'est-à-dire quelque chose comme un rêve social.
Oui, la maison de George Sand, elle en a hérité, mais elle la transforme en un projet. Et le projet est un projet collectif. Faire une maison de famille, certainement, mais de famille large, hein, large, très large. Et puis, un lieu d'amis. L'amitié, pour elle, c'était fondamental, aussi important que l'amour, peut-être même plus encore. Et puis, un lieu de création, où les artistes pourraient venir se reposer, créer, s'ils en avaient envie, ateliers pour Delacroix, pour d'autres, lieux pour écrire, bien entendu pour composer la musique, car pour elle, la musique, c'était le plus grand des arts. Elle avait fait capitonner les portes de la chambre de Chopin, qui a été son ami, son amant pendant 9 ans, et qui a passé cet été à Nohant à composer peut-être, on le dit, les musicologues le disent, les 2/3 de son œuvre. Hein, c'est pas rien, par conséquent. Et donc, oui, cette maison devait être, et peut-être aussi, un lieu d'imagination politique. Hein. Elle aurait voulu que la République, car elle a été une républicaine très tôt, dès 1833-34, elle voulait la République, absolument. Et elle pensait que les étudiants, devenus médecins, devenus avocats, etc., etc., pouvait être l'armature de cette république dans la petite ville réac, comme on disait, de La Châtre. Et que ce serait un modèle pour peut-être une nouvelle conjoncture qui arriverait et qui serait la république. Et qui a été en effet la république de 1848.
Un modèle, un laboratoire, ça me fait penser, Michel Perrault, à Michel Foucault, avec lequel vous avez travaillé, un de ses derniers textes, vous le savez, des espaces autres, parle de ces utopies situées, des lieux qui sont hors des lieux. Et c'est le cas, très exactement, de cette maison de Nantes qui sert, au fond, à George Sand de laboratoire de l'émancipation politique auquel elle aspire et à laquelle elle travaille. Elle travaille en écrivant, elle le fait advenir ce temps nouveau.
Tout à fait. Vous citez, Patrick Boucheron, Michel Foucault, qui nous est cher à vous et à moi. Et bien sûr, j'ai constamment pensé à Foucault, constamment peut-être pas, mais beaucoup pensé à Foucault en écrivant ce livre, déjà sur les chambres, parce que il a théorisé, je pense même qu'il aurait probablement été plus loin, théorisé le lieu. Qu'est-ce que c'est qu'un lieu ? Qu'est-ce qui fait advenir un lieu ? C'est un lieu, c'est à la fois un espace matériel, mais si les gens ne s'emparent pas du lieu, n'en font pas à la fois un laboratoire, comme vous voulez le dire, et peut-être une image aussi, quelque chose qui entraîne. Le lieu n'est rien. Et d'ailleurs, on voit bien que quand ils ne sont plus là, le lieu, qu'est-ce que ça devient ? Donc, en effet, la problématique du lieu est extrêmement importante, et Michel Foucault l'a en partie inspiré.
Alors, je le disais, notre besoin d'histoire, je le disais en vous écoutant, Michel Perrault, notre besoin d'histoire, c'est aussi notre besoin des lieux pour l'histoire, et dans ce lieu que vous reconstituez, se trouve fidèle au rendez-vous toutes vos vocations d'historienne, historienne du politique, historienne des femmes, historienne de la condition ouvrière. Mais parlons d'abord politique, puisque vous y faisiez allusion. Vous avez travaillé sur le 19e siècle presque exclusivement. C'est votre siècle?
Ah oui, c'est mon siècle, oui.
Et pourquoi?
D'abord parce que j'ai commencé à travailler sur le 19e, à un moment où d'ailleurs on ne pouvait pas travailler sur le 20e encore, parce que les archives n'étaient pas accessibles. Et par conséquent, j'étais un petit peu obligée de travailler sur le 19e avant 1914. Et puis, ce siècle m'a séduite, il m'a enchantée, il m'a posé beaucoup de questions, parce que entre la Révolution française et la guerre de 14, en gros, ou même un peu plus loin, car j'ai été ensuite plus loin, il pose tous les problèmes de la modernisation, de l'élargissement de l'espace, des techniques, de la démocratie.
Et de l'émancipation.
Et de l'émancipation, avec... c'est devenu de plus en plus important pour moi, surtout après les années 70, l'émancipation des femmes, hein, qui achoppe, alors qu'on est quand même dans une république laïque, hein, et pourtant la condition, l'accès des femmes à la citoyenneté, et même à leur individualité civile, n'oublions pas l'infâme code civil, comme disait George Sand, tout cela pèse très lourdement sur les rapports entre les sexes. Par conséquent, le 19e siècle n'a cessé de m'intéresser, comme siècle des ouvriers, comme siècle des prisons. J'ai travaillé un peu enfin sur les prisons à la suite de Michel Foucault.
Pourquoi ? Avec lui et contre lui, oui, d'ailleurs.
Oui, contre lui peut-être pas, mais différemment, disons, à la manière d'une historienne. Et puis, bien sûr, les femmes. Hein. Donc, c'est un siècle où toutes ces intrigues historiques, tous ces lieux de l'histoire... L'usine, la prison, la chambre, le public, le privé, hein, le théâtre aussi. Toutes ces choses sont très vivantes et pour l'historienne, c'est un jardin rêvé.
Faire l'histoire avec les lieux et donner rendez-vous dans ce lieu à Nohant, à tout ce 19e siècle qui vous a occupé votre vie durant d'historienne. Vous disiez de George Sand qu'elle avait un projet politique, évidemment, avec cette maison, qu'elle avait aimé la République de 1848. Elle s'effraie, en revanche, de la Commune.
Oui,
vous citez dans sa correspondance cette lettre très belle à Alfred Gabrier. Je hais le sang répandu, ma vieillesse proteste contre la tolérance où ma jeunesse a flotté. Maudissez tous ceux qui creusent des charniers, la vie n'en sort pas, c'est une erreur historique dont il faut nous dégager. Le mal engendre le mal. Apprenons à être révolutionnaires, obstinés et patients, jamais terroristes. Obstinés et patients.
Oui, c'est un très beau texte, à mon sens, et très actuel, peut-être aussi. Bien entendu, on peut s'étonner qu'une femme comme George Sand, si libre et si solidaire des pauvres et des opprimés, n'ait pas compris la Commune. Elle l'a pas compris. Elle était loin, d'abord, elle était dans le Berry. Les paysans n'aimaient pas la Commune. Hein. Ils disaient « Paris est fou ». Paris est fou. Et elle, qui était dans ce Berry, elle disait, mais oui, Paris est fou. La République a été proclamée le 4 septembre 1870, comme elle disait, une République sans effusion de sang. Il n'y en avait pas eu trop à ce moment-là. Et la Commune, peut-être que la Commune va nous ramener un pouvoir autocratique, quelque chose comme un second empire, un troisième empire. Donc elle était contre, et la Commune n'a pas duré longtemps, elle n'a pas eu le temps peut-être d'en savoir plus, et ensuite, mais ce qu'il faut voir aussi, et le texte que vous avez lu, Patrick Boucheron, le montre bien, c'est qu'il y a chez elle des logiques, vous voyez, sa logique à elle, c'est pas de violence. Elle a de plus en plus réprouvé la violence, surtout après les journées de juin 1848 qui avaient été épouvantables. Il y a eu plusieurs milliers de morts à Paris, hein, qui ont pas encore achevé la République, elle va durer encore quelques temps, enfin mis fin à la République démocratique et sociale. Ça a été épouvantable. Et elle n'a pas vraiment compris comment, avec toute cette générosité qu'il y avait, avec toute cette création qu'il y avait, cet égalitarisme que l'on voulait, on aboutissait d'une part à fusiller les prolétaires et d'autre part à mettre bas la République. Et ça a été pour elle une leçon terrible, qui a probablement pesé toute sa vie sur ses options politiques. Mais elle disait « Je suis restée rouge dans mon cœur ». Enfin, c'est une de ses dernières paroles. Autrement dit, je pense que sur ses options fondamentales, égalité, liberté, solidarité, elle aimait mieux solidarité que fraternité, je ne sais pas pourquoi, si, enfin je sais, et c'était quelque chose de très important pour elle.
Matière à penser, Patrick Boucheron.
Toujours en compagnie de Michel Perrault pour son livre George Sand à Nohant, une maison d'artiste, mais pas seulement pour ce livre, pour toute votre carrière d'historienne qui y trouve au fond son lieu, justement. Ah, on vient d'entendre Aretha Franklin pour l'historienne de celle qui disait « Je ne me suis jamais connu de maître », c'est normal. C'était votre choix musical.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, Aretha Franklin a été une rebelle. Elle a choisi aussi le chant. Et George Sand adorait le chant. Pour elle, la voix, c'était la plus belle chose du monde. Et elle aimait la musique avant tout, mais la voix, c'était très très important. Dans un de ses grands romans, qui s'appelle Consuelo, l'héroïne est une cantatrice, et elle perd sa voix à un moment donné. Et la perte de la voix, c'est un peu comme la perte de l'identité et de la liberté. Donc Aretha Franklin, vive Aretha Franklin et vive George Sand.
Et vive le féminisme, parce que évidemment c'est aussi un des combats de votre vie, Michel Perrault.
Oui, absolument. Peut-être pas à l'origine. À l'origine, je pense que j'étais pas du tout consciente de la question des femmes. J'avais la chance d'avoir un père féministe. J'ai rencontré Ernest Labrousse, qui était un grand maître de la Sorbonne et le mien, qui était parfaitement... Le mot féministe le faisait rire, d'ailleurs, mais parfaitement égal avec les femmes. Enfin, il n'y avait pas du tout de problème. Bon, donc j'ai eu de la chance et je n'ai pas souffert au départ d'être une femme. Mais j'ai pris conscience progressivement de l'inégalité et naturellement le mouvement de libération des femmes des années 70. Pour moi, ça a été très très important. Les luttes des femmes à ce moment-là ont beaucoup compté. Je me suis beaucoup engagée. Et comme il se trouve que j'ai soutenu ma thèse en 71, j'étais un peu libre au fond, je me suis dit mais je fais des choses pour la lutte des femmes, mais est-ce que j'en parle dans mes cours ou dans mes séminaires ? Non, on n'en parle pas. Et à ce moment-là, avec des collègues, Pauline Schmitt, qui a été grande historienne de l'Antiquité, qui est une grande historienne de l'Antiquité, Fabienne Bock, qui est une historienne de la Première Guerre mondiale, plus jeune que moi, bien sûr. Nous avons ensemble décidé de faire un cours sur l'histoire des femmes. Voilà. Alors, ça a été le point de départ d'un long trajet de recherche, de séminaires, de thèses, de groupes, de tout ce que vous pouvez imaginer. L'écriture de l'histoire des femmes en Occident, de l'Antiquité à nos jours, avec Georges Duby et toute une équipe de 70 personnes. Hein. Voilà, oui, c'est un petit peu comme ça. Mais vous voyez, c'est pas originel, c'est venu dans mon parcours.
Mais il y a beaucoup de choses qui viennent comme ça aussi de cette pratique collective de l'histoire. Par exemple, je disais de cette maison de Georges Sand qu'elle rassemble tous vos thèmes d'historienne, avec l'histoire des femmes, avec l'histoire du 19e siècle politique, avec l'histoire de la classe ouvrière. On y reviendra évidemment, puisque il y a ces formidables passages sur les domestiques. Mais par exemple, vous consacrez de très jolis chapitres aux animaux. L'histoire des chiens, de sa jument Colette qui lui sauve la vie, de sa détestation des chats. S'il y a des ennemis des chats qui écoutent la radio, et ben qu'ils voient votre livre, ils auront quelques exemples.
Mon ami Daniel Salnave, qui aime beaucoup les chats, je pense que pour elle, ça va être un petit peu difficile.
Bon, mais en tout cas, ça aurait été difficile pour vous peut-être de d'écrire ces chapitres sans l'historiographie, c'est-à-dire que
bien sûr.
C'est depuis quoi, 10-15 ans, on nous amène, Damien Baldin, les autres, à adopter le point de vue animal. Ce qui est beau dans votre livre, c'est qu'on y voit défiler une carrière d'historienne, vous, mais aussi ce qu'est être historien aujourd'hui, c'est-à-dire être dans l'historiographie avec des renouvellements. Vous les avez accueillis, tous ces renouvellements.
Patrick Boucheron, vous avez entièrement raison. Et je pense que, pour ma part, je ne me sens pas, malheureusement, une théoricienne. Hein. C'est une lacune, probablement.
Vous le dites tout le temps, mais on n'y croit pas tant que
oui,
ça,
enfin, Michel Béraud. Passons là-dessus. Mais par contre, je suis très sensible à l'écoute, et en tout cas sensible à ce que j'ai appelé dans un autre texte l'ère du temps.
Oui.
Ce que je vis dans mon époque, ce que je sens dans mon époque, pour moi, a beaucoup, beaucoup d'importance. Si bien que, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé sur les ouvriers, les ouvriers en grève, sur le social. Parce que dans la conjoncture des années 50-60, c'était cela qui était le paradigme fondamental.
Dans une optique labroussienne d'histoire sociale sérielle, c'est votre thèse sur Genèse de la grève.
Bien sûr.
Et c'était la manière de faire de l'histoire à ce moment-là.
À ce moment-là, et quantité de collègues, d'amis ont été des élèves de la Brousse et ont fait une histoire économique et sociale très labroussienne. Et puis d'autres thèmes sont arrivés auxquels peut-être la Brousse n'aurait pas été sensible. Les prisons, le pénitentiaire, les marginaux. Foucault qui nous dit que l'histoire, c'est pas seulement le centre politique, mais ça peut être les marges, et les marges sont centrales.
Hein. Donc notre besoin d'histoire, c'est aussi d'accueillir tout ce qui nous déborde, tout ce qui se passe ailleurs et qui vient trouver dans la maison de l'historienne son logis.
Tout à fait. Et vous parliez des animaux, c'est à mon avis clair, en effet, que la sensibilité écologique de notre temps, qui largement maintenant alimente une historiographie que nous pourrions développer ensemble, j'y ai été sensible. Je n'ai certainement pas écrit sur le jardin de Georges Sand, sur son goût des sciences naturelles, sur les animaux qui l'entouraient de la même manière, si je n'avais pas bénéficié de ses travaux actuels sur l'écosystème, les animaux, enfin tout ce que nous venons de dire, bien sûr. Et tout ça, mais au fond, ça enrichit le regard, parce que je pense que comme moi, Patrick Boucheron, vous penserez un peu que l'histoire c'est un regard,
oui.
Et que c'est un regard qui change, hein, et que ce regard nous aide à nous approprier des objets nouveaux, à les voir différemment, à changer le paysage, en quelque sorte, en incorporant nos préoccupations actuelles, nous donnons vie à des quantités de choses qui sont là sous nos yeux, mais que l'on peut faire vivre dans le passé également. Je pense que c'est dans ce dernier livre, j'ai beaucoup bénéficié de tout ça.
Vous parliez de ce texte qui s'appelle « L'esprit du temps », qui est, si je ne me trompe, votre contribution aux essais d'égo-histoire publié par Pierre Nora en 1987. Vous y êtes la seule femme.
Oui, en effet.
Et vous dites aussi vos réticences à avouer l'intime comme ressort de votre action et de votre pensée, en disant, Michel Perrot, que la fiction, moins bien gouvernée que l'histoire, pourrait la dire mieux. C'est pour cela que vous êtes rapproché de la littérature après le temps des grandes fresques sociales à la suite d'Ernest Labrousse.
Patrick Boucheron, vous mettez le doigt sur, en effet, un problème historiographique très très intéressant. Dans ma génération, la littérature, c'était le loisir, l'imaginaire, mais ce n'était pas un instrument historique. Labrousse disait, il vaut mieux regarder, il faut travailler sur les notaires, l'enregistrement. Balzac, c'est très bien, mais enfin, c'est peut-être fantaisiste. Voilà, bon. Bon, et la littérature, oui, on la regardait de loin. Et puis alors, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup d'historiens, je pense à Mona Ozouf par exemple, se sont appropriés la littérature, l'ont réintroduit, et tous nous avons fait cela. Progressivement, nous avons fait cela, et nous étions toujours avides de littérature, bien sûr. Mais peut-être la réintégrer dans l'histoire, c'est venu un petit peu après.
Et vous avez voulu retrouver aussi la voix des femmes, celles qui disent la mélancolie ouvrière. Je pense à Lucie Beau, qui magnifique, un magnifique personnage de votre œuvre historique.
C'est encore une autre aventure très intéressante. Très brièvement, Lucie Beau, je l'avais rencontrée dans les années 1960 chez Madeleine Guilbert, une sociologue qui avait consacré un livre aux femmes dans les congrès ouvriers. Et elle citait Lucie Beau comme une femme invitée dans un congrès ouvrier, mais à laquelle on ne donne pas la parole. Et ça l'avait beaucoup intriguée, et moi aussi. Et elle citait un texte qu'elle devait pas vraiment lu, je crois, mais que moi j'ai été lire dans une revue de 1908 qui s'appelait Le Mouvement Socialiste. J'avais été absolument ébloui par ce texte, qui est très sobre pourtant, mais là, où cette femme disait « je ».
Oui. Hein,
elle commençait en disant « je ». Et ensuite, ce « je » devenait un « nous » parce qu'elle racontait les grèves qu'elle avait menées dans l'Isère dans les années 1905-1906. Bien. Je m'étais dit, cette femme, c'est étonnant, un jour, peut-être. Bon. Et puis, je ne l'ai pas oubliée, mais je l'ai laissée de côté. Et puis, il y a eu des quantités de choses. En 78, dans le mouvement social, j'ai fait, dans un numéro spécial, publier ce texte dont je viens de parler. Et ce texte a circulé en Isère, où des gens se sont dit, dans à l'université, au lycée, tiens, mais Lucie Beau, elle est de l'Isère, elle est intéressante. Et ils l'ont suggéré à des gens dans l'Isère. Il y a un instituteur, Binga, qui, lui, a fait des recherches généalogiques sur Lucie Beau. Progressivement, Lucie Beau a repris l'ampleur. Mm-hmm. Et quand deux jeunes journalistes m'ont proposé de faire un livre sur une héroïne, et sur une héroïne inconnue, je leur ai parlé de cette femme sans grande conviction. Elles m'ont dit, mais voilà, c'est tout à fait ce que nous voudrions. Alors j'ai repris le bâton de pèlerin de l'historienne, et en retrouvant les gens du lieu, les lieux aussi,
toujours les
bien,
lieux.
On est arrivé, voilà. Et Gérard Mordilla a tiré un film de ce livre qui vient de passer à Arte.
Lucie Beau, Georges Sand aussi, évidemment, c'est une grande épistolière, mais c'est une diariste qui se laisse convaincre d'écrire ses agendas, mais ce n'est pas elle qui tient la plume. J'ai trouvé ça très intéressant, la manière dont, au fond, dans ses agendas, Georges Sand n'est pas la première à dire « je », c'est d'abord son mari qui l'amène à s'avouer.
son mari non, mais son compagnon, en tout cas,
pardon.
Alexandre Manceau. Et de fait, George Sand n'était pas diariste. Elle trouvait même que c'était un petit peu ridicule, hein, de parler de soi. Voilà, elle voyait le journal un peu comme journal intime où on parle de soi. Ça, ça l'intéressait pas. Et Alexandre Manceau lui a dit, mais madame, car il l'appelait comme ça, vous allez oublier tout ce que vous faites, tous les gens que vous voyez. Il faut le noter. « Oh non, non !» lui dit-elle. « Mais moi, je vais le faire pour vous. » Et donc, il a commencé à faire ce travail-là.
C'est d'abord lui qui écrit.
C'est d'abord lui.
C'est d'abord lui. Et puis ensuite arrive l'écriture de George Sand.
Voilà. Et à un moment donné, c'est une écriture parallèle. Il écrit, de temps en temps, elle écrit. Là, on voit d'ailleurs la différence des écritures, des sensibilités. Et puis, il meurt. Il meurt de la tuberculose en 1865. Elle, elle a encore 11 années à vivre. Elle a continué à tenir ses agendas, qui sont devenus plus copieux, d'ailleurs.
Mais il y a une autre main, d'ailleurs, qui écrit, c'est Maurice.
Oh oui, mais alors Maurice Sand, c'est son fils, qui n'aimait
pas
du
beaucoup,
tout,
voilà.
Qui était jaloux de Manceau.
Qui le traite de Tartuffe dans les marges.
Voilà. Tartuffe, elle se laisse faire, enfin, bref, il y a une espèce de commentaire off par Maurice qui montre par ailleurs que non, on n'a pas été toujours une idylle.
Donc on a quand même un document composite qui montre que à ce moment-là, même pour quelqu'un d'aussi spectaculairement célèbre que George Sand et sûr de son bon droit littéraire et dont Balzac appelle mon camarade, c'est pas si facile que cela quand même de prendre la parole quand on est une femme.
C'est difficile, c'est difficile. L'intime est difficile. Il y a même chez une femme comme elle qui est tellement libérée. Si l'on cherche, par exemple, des témoignages sur sa vie sexuelle, bon, problème de notre époque, hein, on n'en trouve pas beaucoup. Nous savons qu'elle a eu une vie sexuelle très libre. Elle a véritablement un tempérament sans doute amoureux, mais elle en parle très peu. Autrement dit, là aussi, il y a des barrières à la parole qui sont celles de notre époque, de notre temps. Et nous parlons, au fond, ce que notre époque parle en nous.
Et puisqu'on parle de notre temps, lorsqu'il le faut, vous intervenez dans le nôtre. Vous êtes intervenu dans le mouvement MeToo. Et vous y avez dit l'année dernière que, au fond, une des difficultés pour nous, c'était de bien comprendre ce que c'était que la galanterie et que, au nom de cette galanterie et de l'histoire qu'on lui prête, eh bien, on faisait offense aux femmes. Je trouve que ce que vous dites aussi de George Sand à Nohant, qui est tout sauf un salon galant, est dans cette poursuite.
Bien sûr, vous parliez, Patrick Boucheron, de MeToo. Puisqu'on en parle, je pense que c'est un événement important par l'ampleur qu'il a pris de cette protestation des femmes pour le droit à leur intimité et à leur corps. Hein. Si je dis non, c'est non. Je suis libre de mon corps. Et c'est pas un événement isolé. Ça vient après un long mouvement de réappropriation des femmes de leur corps, de leur sexualité, de leur contraception, etc. Donc j'y vois plutôt une continuité, mais une continuité amplifiée, bien sûr, par les réseaux sociaux. Il est clair que là, il y a une forme d'expression liée aux techniques même de communication de notre temps. Vous parliez de galanterie, on aurait pu parler d'amour courtois.
Oui.
Ça aurait été bien intéressant.
Avec Georges Duby.
Et avec vous-même et Georges Duby, avec vous-même Patrick Boucheron. Georges Duby était très critique vis-à-vis de la notion d'amour courtois.
Ben oui, il pensait que c'était un leurre.
Ah oui.
Comme la galanterie au XVIIIe siècle.
Exactement. Et je ne suis évidemment pas contre la galanterie, bien sûr, c'est une manière agréable de vivre les rapports entre les sexes, mais je suis contre l'idée que ce serait la régulation française des rapports entre les sexes. Alors là, pas du tout, je pense que c'est une construction, et que c'est une construction charmante, mais on pourrait dire l'inégalité sous les fleurs. Hein ? On offre des fleurs aux femmes, on leur ouvre la porte, mais ensuite, taisez-vous et restez tranquille sans nous ennuyer.
Alors, on lira dans votre livre, Michel Perrault, George Sand à Nohant, des chapitres très beau et très poignant aussi sur le corps féminin, le corps qui vieillit. Je voudrais qu'on termine par un dernier portrait de femme. C'est une des domestiques que George Sand accueille à Nohant, elle qui aurait souhaité au fond ne pas être servie, mais enfin qui est quand même servie. C'est une de ces contradiction d'ailleurs, vous le disiez dans l'histoire des chambres, quand elle meurt, au fond, c'est une scène qui est encore aristocratique et déjà moderne. Ce portrait de femme, c'est une jeune domestique qui s'appelle Marie Despoules. Est-ce que vous pourriez nous la présenter ?
Marie Despoules, elle s'appelait Marie Caillot et elle était entrée au service de George Sand toute jeune. Elle avait 13 ou 14 ans, ce qui se faisait couramment, c'était comme cela. Elle était illettrée, comme la plupart des petites paysannes de cette époque, c'était
donc
classique.
Donc elle s'occupe des poules.
Oui, elle s'occupe des poules, absolument, d'où le nom de Marie Despoules. Elle est charmante, George Sand l'aime beaucoup. Et puis elle dit, elle est intelligente cette petite fille, il faut qu'elle apprenne à lire. Et George Sand lui apprend à lire. D'ailleurs, c'était pas spécialement pour Marie Despoules, c'était systématique. Elle enseignait, elle apprenait à lire à tous les hommes et femmes qui ne savaient pas lire et qui montraient quelques capacités. Et il y avait le théâtre. Nohant a été le siège d'un théâtre, double théâtre, théâtre d'acteurs, naturellement des amateurs. Et elle a dit, mais Marie, tu jouerais très bien dans les pièces.
Et là, elle brille.
Elle brille.
Et là, Marie Despoules
devient une actrice.
Marie en or, on
l'appelle. Marie en or. Elle est admirée, respectée, on lui offre des fleurs, etc. Elle a probablement vécu un moment extraordinaire de sa vie.
Mais trop bref.
Trop bref. Arrêtée comme souvent pour les jeunes filles sociale, de cette catégorie sociale, elle est séduite probablement, on ne sait pas par qui, on ne le saura jamais. Elle a un enfant, et elle est grosse par conséquent, elle est enceinte, et George Sand se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça ne serait pas son fils, qui n'a jamais rien dit, naturellement. Le fils est marié, hein, Maurice est marié avec Lina, tout ça c'est très compliqué. Alors George Sand décide d'éloigner Marie Despoules. Elle la place à Paris, ce qui était un avantage du point de vue du salaire. On gagnait évidemment deux fois plus. Et elle ne la perd jamais de vue. C'est même elle qui souvent va voir la petite fille qui est restée dans le Berry. Et Marie Despoules mourra avec son secret. On n'a jamais su exactement ce qui s'était passé. Mais avec toujours le souvenir ébloui de ces années qui furent des très belles années, mais des années trop courtes.
George Sand la perd de vue, mais vous ne la perdez pas de vue. Notre besoin d'histoire, Michel Perrault, c'est au fond de donner un lieu à Marie Despoules,
oui,
dans votre livre, pour,
oui,
qu'elle existe à nouveau.
Absolument. Et George Sand était très sensible à ses voix perdue. Dans son œuvre littéraire, elle a voulu donner voix à des petites paysannes, à des paysans, etc. Et rencontrant Marie Despoules, il me semble qu'il fallait qu'elle soit à Nohant. Elle y a été, elle y a vécu, qu'elle revienne dans un livre consacré à Nohant me paraissait élémentaire.
Merci Michel Perrault.
Patrick Boucheron, c'est moi qui vous remercie beaucoup.
Demain, nous recevrons Gauze, d'autres lieux, d'autres temps, un autre ton également. Vous verrez, c'est un romancier, mais lui aussi nous dira son besoin d'histoire. Matière à penser, Michel Perrault, Cédric Chatelus, Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Bonne soirée.